La fête de Dumbéa au Parc Fayard se poursuit et le point d'orgue des célébrations est sur le point de débuter. Je parle bien sûr de la dégustation de l'omelette géante. Nous serons sur place en début de journal. Le nouveau maire du Mont-d'Or, Nina Julier, était l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence vendredi. Elle est revenue sur les projets lancés dans la commune et ses priorités. Une assemblée citoyenne au congrès est constituée. Le but sera de formuler des propositions qui seront ensuite présentées aux élus. Il suffit à l'Iran de nous rappeler. Donald Trump affirme avoir annulé le déplacement de ses émissaires à Islamabad, mais cela ne signifie pas une reprise de la guerre contre l'Iran. Le sport sur le territoire, c'est la dernière journée du rallye de Poya, première étape du championnat territorial 2026. En tout, 8 spatiales étaient au menu tout au long du week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À Dumbéa, la pluie s'est invitée aux célébrations de la fête de la ville ce week-end. Les organisateurs se sont inquiétés et demandé s'ils devaient, oui ou non, maintenir l'événement et cuisiner la fameuse omelette géante. Et finalement, la préparation a bel et bien débuté il y a une heure. Reportage de Charlotte Coulson.
On a pu lancer le feu, on est en train de finir de préparer tout le matériel qui va avec. Au niveau de la casse et la coupe du pain, et on n'attend plus que l'éclaircie météo.
Allez, c'est parti.
Allez, go.
On y va.
Yeah. Les œufs sont frais, les œufs sont beaux, et l'omelette sera bonne.
Madame le maire, la pluie, ça n'a pas arrêté la confrérie.
Écoutez, rien n'arrête la confrérie de l'omelette géante. Vous voyez, nous sommes tous à la tâche. Nous cassons des œufs, parce qu'il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs de Dumbéa. Et nous avons tous hâte de la déguster.
On va les saler, poivrer, et ensuite qui vont être mis dans les faitous, et ensuite on a juste à les passer dans la poêle. Voilà.
Et après, il faut ajouter les autres ingrédients.
Ah, les ingrédients, on a oublié le saucisson de cerf et les oignons verts. Vous faites bien de me faire penser. Et oui, donc on va les mettre dans les faitous qu'on va mixer après avec le gros mixeur. Et on y tenait à ce que cette omelette se fasse aujourd'hui, d'autant plus qu'on n'a pas pu faire celle des petits hier. Donc aujourd'hui, c'est l'apothéose. On peut faire l'omelette malgré les quelques gouttes de pluie.
Et on retrouve tout de suite Charlotte Coulson. Charlotte, vous êtes à Dumbéa, sur place. Et une question, l'omelette est-elle cuite ?
Oui, bonjour, Léana. Nous sommes effectivement en direct du Parc Fayard. Il y a eu, je dois dire, beaucoup d'inquiétudes ce matin. Mais finalement, l'omelette sera bien servie. Je suis avec la présidente de la compagnie et bénévole de l'omelette géante, Reine Chenot. Reine Chenot, vous avez été inquiète, mais finalement, on est soulagée ce matin.
On a été très inquiets parce qu'on se demandait si on allait pouvoir la faire. Et tout compte fait, ben voilà, elle est cuite, prête à faire cuire.
Oui, il y a beaucoup d'ambiance derrière. On l'entend, on voit la joie après justement cette inquiétude. Alors, vous avez quand même dû vous réadapter. Hein. Vous avez dû vous réadapter pour essayer de passer les alimentaires.
Ben voilà, alors on n'était pas sûr que nous ayons des catholiques participés comme d'habitude. Donc, on a tout divisé par deux. Il y a le lit, les deux. Il n'y a que le saucisson de terre que les gens ont à leur affaire, puisque là, elle est vraiment au saucisson de terre, il y en a beaucoup. C'est du saucisson à l'omelette à ce stade. Pardon. C'est du saucisson à l'omelette. Voilà.
On va faire ça comme ça. C'est vrai que l'omelette a aussi des saucisses.
Charlotte Coulson, merci beaucoup Charlotte. On va couper la ligne. Malheureusement, il y a, vous l'avez entendu, beaucoup de bruit derrière. 4000 parts seront servies. Les participants sont nombreux et vous entendrez un reportage développé ce soir dans notre édition de 17h45. La météo qui a concerné évidemment de nombreuses familles durant ce week-end. La journée de samedi a été marquée par un épisode de fortes pluies, les conditions s'améliorent désormais, même si des averses passagères sont encore à prévoir. Et nous avons fait le point avec Joël Mouret, chef prévisionniste au Centre Météo France Nouvelle-Calédonie.
Effectivement, actuellement, on observe une amélioration sur une bonne partie du pays, surtout par rapport à la journée d'hier samedi et de la nuit. Sur Yaté, par exemple, sur 24 heures, on a relevé 142 mm et on va jusqu'à 221 mm si on prend un cumul sur les 48 dernières heures. Nouméa, 97 mm sur 24 heures. Donc, encore une fois, cela se traduit bien la grande activité pluvieuse que l'on a pu observer. On a observé des rafales de 35 à 40 nœuds et encore jusqu'en cette matinée. On assiste à une amélioration. Alors au niveau des vigilances, la vigilance jaune, forte pluie, orage, s'arrête en cette fin de matinée. Elle ne sera pas renouvelée. Par contre, on est toujours en vigilance jaune vent fort. Donc, avec toujours voilà, des rafales de 35-40 nœuds. Pour une franche amélioration, ben, voilà, il faudra être patient, puis attendre la journée de demain, lundi.
Joël Mouret, chef prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie. Quelques averses seront toutefois encore attendues pour cette fin de journée, notamment sur la chaîne. Une nouvelle commémoration de l'Anzac Day se déroulait aujourd'hui à Bourail. Les consulats généraux d'Australie et de Nouvelle-Zélande étaient présents au cimetière de Bogen pour un hommage aux soldats tombés en Turquie lors de la Première Guerre mondiale. On rappelle que nous célébrons le 25 avril le 111e anniversaire de la bataille de Gallipoli. Plus de 8000 Australiens et 2000 soldats néo-zélandais avaient perdu la vie sur le front turc durant 8 mois. Les autorités civiles et militaires étaient également présentes ce matin au cimetière néo-zélandais de Bourail. C'est Nina Julier, le nouveau maire du Mont-d'Or, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. L'occasion d'évoquer ses projets et ses priorités, Michael Juneski.
Nina Julier a été élue maire du Mont-d'Or il y a un peu plus d'un mois. Et le nouvel exécutif est encore dans la phase de mise en place, même si plusieurs projets ont déjà été lancés. Le nouveau maire est aussi élu à la province sud et au congrès. Et elle estime que c'est un atout pour sa commune de cumuler ses mandats.
C'est vrai que pour défendre ses administrés, ne pas être dans ces instances-là, c'est se priver aussi de financement, puis de cohérence aussi avec les politiques qui sont votées à l'échelle du territoire. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, on a voté la délibération d'utilisation des financements de l'État dans le cadre de l'amélioration de nos écoles. Eh bien, je suis intervenue pour dire que la commune du Mont-d'Or voulait, elle aussi, être en partenariat sur cette action. Et on va avoir l'école de Saint-Michel, par exemple, qui va pouvoir bénéficier de ce partenariat avec la province et l'État. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça nous permet vraiment d'être plus efficaces pour les Mont-d'Oriens.
Le Mont-d'Or a été durement affecté par les violences insurrectionnelles de mai 2024 et la commune en porte encore les traces. Elle a par ailleurs perdu des habitants ces dernières années. Pour Nina Julier, le retour à l'attractivité du Mont-d'Or passe par le rétablissement de la sécurité.
Ça passe d'abord par la sécurité. Les gens quittent le Mont-d'Or parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité pour diverses raisons. Il y a beaucoup de cambriolages, il y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup de petites délinquances qui mettent une mauvaise ambiance et qui donnent une mauvaise image de la commune. Et puis après, il y a toujours notre problème de la route qui est encore encadrée par les gendarmes, etc. Donc il faut d'abord resécuriser, faire absolument baisser la délinquance. Et c'est ça qui fera, je pense, revenir les gens, qui leur redonnera confiance. Après, il y a le volet de l'emploi. Mais voilà, là, dans les 3 premières semaines, moi, je me suis d'abord attaquée à la baisse de la délinquance.
La sécurité, priorité de la nouvelle équipe municipale, elle a déjà procédé au lancement du recrutement de 5 policiers municipaux supplémentaires. Elle envisage aussi la mise en place du dispositif des mineurs en errance pour gérer les jeunes délinquants. Le maire du Mont-d'Or qui a déjà visité les 3 gendarmeries de sa commune. L'insécurité, c'est aussi la circulation sur la RP1. Et Nina Julier porte toujours le projet d'un viaduc. Une commission consultative de suivi du dossier sera installée en juin.
Donc on va créer cette commission avec des élus et avec la société civile. Et puis moi, je continuerai bien sûr à défendre auprès de l'État, auprès de mes interlocuteurs, que ce soit le Haut Commissariat. Alors, Madame Durieux a un remplaçant, là, qui vient d'arriver, que j'ai briefé tout de suite, que j'ai été voir dès la semaine dernière, à qui j'ai dit que s'il ne savait pas comment consommer son enveloppe, moi j'avais un projet tout prêt qui s'appelait le viaduc. Alors j'étais étonnée, personne ne lui en avait parlé encore, donc je l'ai bien briefé sur le sujet. Il cherche des projets prêts à démarrer. Les études sur le viaduc, elles sont terminées en fait. Il nous reste 2-3 petites choses à faire là. En septembre, c'est fini. Et là, l'ensemble des études aura été réalisé, il ne manquera plus qu'à. Donc moi, si l'État cherche un projet tout fait, je l'ai.
Autre dossier en préparation, l'implantation du RSMA dans une commune de l'agglomération. Et le maire du Mont-d'Or veut se battre pour l'obtenir face à Dimbéa, autre ville candidate.
Nous, clairement, on a besoin de ce projet-là pour redonner de l'attractivité au sud du Mont-d'Or, parce que le lieu qui a été choisi là pour l'instant, c'est au sud du Mont-d'Or. On a besoin de ça, la commune. Voilà, on a besoin que l'État redonne un signal positif aux gens en disant, ben voyez, moi, je vais venir installer au sud du Mont-d'Or une antenne du RSMA. Et tant pis le problème de la route, moi je reviens, j'investis, je vous amène du monde. Et j'espère que le haut commissaire est sensible à cet argument-là.
En attendant la réponse de l'État, la nouvelle équipe s'est fixée 12 priorités à réaliser en 100 jours. Nina Julier affirme que 75% d'entre elles seront lancées d'ici le mois de juin.
La première mesure qu'on a mise en place, c'est donc l'ouverture de notre permanence sans rendez-vous, qui est très appréciée des Mondoriens. La deuxième mesure, c'est le recrutement là, de 5 policiers. En tout cas, on a lancé les AVP. Il y a la procédure administrative maintenant qui va suivre. Et puis, on a le projet Click and Move. On va rajouter 5000 francs au projet Click and Move de la province sud, qui est déjà de 15000 francs pour les jeunes de 11 à 18 ans. Comme ça, nos jeunes Mondoriens pourront avoir 20000 francs au lieu des 15000 à dépenser dans la commune. Ça va être fait aussi dès le mois de juin. Et on travaille sur la TCA, la suppression de la TCA. Ça aussi, ça sera prêt pour le mois de juin. La baisse des redevances des différents loyers de la commune. Ça aussi, ça sera prêt pour juin. Après, on a des dispositifs qui vont être un petit peu plus longs à mettre en place. C'est tout ce qui touche en fait au toilettage de la réglementation. Par exemple, renforcer les sanctions en cas de délinquance des mineurs. Ça aussi, on avait dit tolérance zéro, c'est une de nos mesures. Tout ce qui touche aussi à toutes les nuisances sonores qu'on est en train de retoiletter, remettre en place des circuits. Voilà. Ça risque d'être un petit peu plus long. Mais je pense honnêtement que début juillet, je pourrais annoncer que 75% des mesures ont été validées et mises en place.
Nina Julier est membre de Génération NC et quand elle est interrogée sur les élections provinciales, elle prône l'union la plus large des partisans de la France derrière Sonia Backès. Elle met aussi en garde contre la dispersion des listes.
Pour passer la barre en province sud, pour avoir un élu, il faut faire minimum 5500 voix. Donc toutes les petites listes qui se présentent, pour qui peut-être on serait tenté de voter parce qu'on n'aime pas un tel ou on a envie de donner sa chance. En fait, il n'y a qu'un seul tour. Donc tout ça, c'est des voix qu'on perd. Une liste qui fait 2000 voix, elle n'aura pas d'élu ensuite à la province sud, donc c'est 2000 voix de perdu. Et dans le contexte dans lequel on est, il faut quand même bien réfléchir parce qu'après, ça va avoir des conséquences. À la province sud, il y a 40 élus. La présidente, le président de la province sud est élu ensuite par les 40 élus. Donc il faut avoir 21 élus pour pouvoir prendre la présidence de la province sud. Donc il ne faut pas que une voix manque à l'appel. Donc il faut bien réfléchir sur cette élection qui est une élection, encore une fois, à un tour et pas éparpiller les voix.
Interrogée par ailleurs sur la récente initiative de Philippe Dunoyer, Nina Julier déclare ne pas avoir compris les raisons de son départ de Calédonie Ensemble, ni la ligne politique et les valeurs du nouveau mouvement politique qu'il va lancer.
Une interview de Nina Julier qui sera rediffusée ce soir juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez aussi la réécouter ou la visionner en podcast sur notre site internet rrb.nc. Et si les citoyens participaient directement à l'élaboration de lois du pays, c'était la proposition du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui a lancé en début d'année une assemblée citoyenne, Michael.
24 personnes ont été tirées au sort, représentant la diversité du territoire. Elles se sont réunies pour la première fois au mois de mars et ont discuté de projets qu'elles souhaitent mettre en œuvre. Après un second regroupement, elles ont présenté hier soir leurs travaux à la présidente du Congrès, Velma Falaeo.
Très heureuse de retrouver à travers leurs propositions, des propositions que j'avais moi-même imaginées, tout ce qui concerne la transparence des décisions publiques et comment surtout améliorer le lien entre les institutions et la population, parce qu'on le voit bien depuis la crise de mai, la population est dans une grande défiance. Elle a besoin d'être plus écoutée, elle a besoin qu'on se rapproche plus d'elle. Et nous devons, au niveau des institutions, mettre en œuvre ce que l'on pourrait faire pour améliorer tout ça.
Pour les membres de cette assemblée citoyenne, l'expérience a été enrichissante. C'est ce que nous a dit Isabelle Bousquet, enseignante spécialisée à Ponérewin.
Au début, c'était stressant, mais moi, je trouvais que c'était une très bonne initiative. Pour une fois qu'on demande, qu'on consulte entre guillemets la population. Et du coup, l'assemblée qu'on a formée, elle est représentative de tous les Calédoniens. Et on a fait abstraction de nos appartenances politiques. C'est ça qui est important. On a mis de côté et on a essayé de répondre à une problématique. Ce qui est important, c'est la confiance entre les institutions et la population. Et de transparence. C'est surtout ces deux mots-clés, je veux dire, qu'on a plus travaillé en apportant des propositions.
Les 24 citoyens ont formulé 17 propositions qui seront maintenant présentées aux élus. Camélie Veikité, juriste à l'ADAVI, espère qu'une majorité d'entre elles seront retenues.
Dans le meilleur des mondes, on aimerait que les 17 soient votés et ensuite retranscrits dans une loi de pays. Mais voilà, il y a vraiment des points phares où on aimerait que ça soit voté. Par exemple, le médiateur citoyen institutionnel, c'est vraiment remettre le citoyen et le rendre proactif. Faire en sorte qu'il y ait une personne qui soit par exemple dans chaque mairie pour recevoir les doléances des gens sous le service bien sûr du Congrès par exemple. Alors mercredi prochain, si je ne me trompe pas, c'est le 29, il y aura une commission plénière qui sera rassemblée ici pour présenter déjà les travaux. Et ensuite, on se reverra en mois de mai pour une séance publique.
Les propositions seront effectivement présentées aux élus le mercredi 29 avril lors d'une commission plénière au Congrès.
Merci Mickaël Juneski. Il est midi passé de 15 minutes. Première pause avant de jeter un œil à l'actualité en métropole et dans le monde.
Bien vivre à tout âge. Rendez-vous les 24 et 25 avril à la salle des expos de Nouville pour la 5e édition du Salon des seniors. Pendant 2 jours, venez découvrir un événement convivial dédié au bien-être et à la qualité de vie des seniors. Au programme, animation sportive, ateliers pratiques, conseils santé, services à domicile et bien plus encore. Profitez-en pour découvrir la carte senior et bénéficier d'offres exclusives chez plus de 200 partenaires. Entrée et parking gratuit. Le Salon des seniors, un événement Pacific Fair en partenariat avec la carte senior, Toyota Renting, Toyota Location et RRB.
Les petits plats dans les grands. Sans couvercle, chauffer l'eau prend 3 fois plus d'énergie. Et en éteignant vos appareils avant la fin, la chaleur restante termine la cuisson. Simple et malin. Toutes nos astuces sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
La suite d'Info Weekend avec l'actualité nationale et internationale, on retrouve Léana Colombo.
À l'étranger, les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre n'ont finalement pas eu lieu, du moins pas pour le moment. Attendue au Pakistan aujourd'hui, la délégation américaine ne s'est finalement pas rendue à Islamabad. Le chef de la diplomatie iranienne a quitté le Pakistan. Donald Trump a annoncé avoir retenu ses 2 émissaires. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Oui, le président américain se justifie en affirmant que personne ne sait qui est réellement aux commandes en Iran. Il s'exprimait tout à l'heure en conférence de presse improvisée.
Je traiterai avec qui il le faudra, mais il n'y a aucune raison d'attendre 2 jours et de faire voyager des gens pendant 17 heures. Nous ne procéderons pas ainsi. Quand ils le voudront, ils pourront m'appeler. Nous avons toutes les cartes en main, nous avons tout à gagner.
Ils peuvent nous appeler, façon de laisser la porte ouverte aux discussions, alors qu'il assure Donald Trump que cette annulation ne signifie pas pour autant une reprise de la guerre. Steve Witkoff et Jared Kushner, les 2 émissaires de la Maison Blanche, devaient pourtant bien se rendre au Pakistan il y a quelques heures encore. Mais voilà, les négociations n'avancent pas, elles se seraient même tendues encore davantage, notamment autour du détroit d'Hormuz. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime islamiste, affirment que le contrôle du détroit est la stratégie définitive de l'Iran et ils menacent à nouveau les États-Unis d'une réponse militaire en cas de maintien du blocus maritime américain. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui était lui au Pakistan, dit ce soir ne pas savoir si Washington est réellement sérieux en diplomatie.
Sur l'autre front de la guerre au Liban, des frappes israéliennes ont fait 4 morts aujourd'hui dans le sud du pays. 2 attaques intervenues malgré la prolongation récente du cessez-le-feu annoncé par Washington. L'État hébreu dit être parvenu à cibler de nouvelles positions du Hezbollah tout en ordonnant à son armée de continuer à frapper avec force l'organisation terroriste. 2 mois de guerre au Moyen-Orient et 2 mois de carburant au sommet à la pompe. Et une question, les distributeurs profitent-ils du conflit au Moyen-Orient pour gonfler leurs marges sur l'essence? Si plusieurs ministres ont affirmé l'inverse cette semaine, expliquant que le distributeur joue le jeu, un document de travail gouvernemental révèle une toute autre réalité. Selon ce document, leur marge brute a augmenté depuis ce début d'année. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet depuis Athènes.
La direction générale compétente, celle de la consommation, du commerce et de la répression des fraudes, regarde chacun de ses distributeurs et regarde comment les prix sont répercutés à la pompe et s'il y a des marges excessives ou pas, à la hausse comme à la baisse. La transparence est faite et des décisions sont prises. Donc on n'a pas attendu 2 mois. Dès le début, le gouvernement a pris les bonnes dispositions et transparence, accompagnement, responsabilisation. C'est la bonne pratique. On est tous embarqués dans la même galère. Et cette galère, on ne l'a pas choisie, si je puis dire. Nous subissons la géopolitique et nous subissons cette guerre qui a été enclenchée il y a maintenant plusieurs mois.
Le chef de l'État, qui s'est également voulu rassurant sur l'absence de pénurie de carburant en France, mettant en garde contre les scénarios qui risquent de provoquer des comportements de panique. Dans l'actualité également, Boualem Sansal prêt à quitter la France. Victime de violentes critiques depuis sa captivité en Algérie, l'écrivain franco-algérien de 80 ans, déchu de sa nationalité algérienne, est arrivé hier à Bruxelles à l'occasion de son entrée à l'Académie royale de Belgique. Et il a déclaré dans une interview, songer à quitter définitivement le territoire français. Écoutez.
La France est finie pour moi. C'est fini. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire.
J'ai quelques années à vivre, tranquille. Hein, voilà, je vais aller, je ne sais pas où. Si les Belges s'y veulent de moi ou ailleurs. Hein. La France, pour moi, c'est fini.
Incarcéré en Algérie pendant un an, l'écrivain a retrouvé la liberté en novembre, gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune sur demande allemande. L'octogénaire est aujourd'hui en traitement médical en région parisienne pour plusieurs pathologies lourdes. Midi passé de 20 minutes, seconde pause dans ce journal et nous ouvrons notre page sport. À tout de suite.
Et si l'amour était un jeu dangereux? Les 25 et 26 avril, redécouvrez « On ne badine pas avec l'amour » d'Alfred de Musset, dans une mise en scène contemporaine, sensible et audacieuse. Entre passion, orgueil et désir, les cœurs s'affrontent et se brisent. Une création co-signée Dominique Jean et Bastien Aussard. Ne manquez pas ce rendez-vous explosif au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive, on retrouve Léana Colombo.
Et à la une du sport du rallye en Nouvelle-Calédonie, le championnat territorial 2026 débutait ce week-end et c'était Tapoya, Michael Juneski.
Deux journées d'épreuves dans des conditions difficiles étant donné la météo et c'est l'équipage vanoitais Brunet Jacob qui a terminé en tête du classement sur Skoda Fabia RS devant la Ford Fiesta du duo Guépin-Teffer. En tout, 8 spéciales étaient au menu tout au long du week-end. Nous avons fait le point avec Romain Leandro, président de l'ASANC, qui organise ce championnat de Calédonie des rallyes.
On a été quand même un peu gâtés parce qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de pluie à part hier après-midi à la dernière et toute la nuit. Donc ce matin, c'était un peu gras, mais dans l'ensemble, la spéciale était magnifique. Il y a eu un bon travail de préparation de route. Donc tout s'est vraiment très bien passé. Bon, après, on a eu pas mal d'abandons. On part de 15 voitures, on finit avec 7 voitures. Tout s'est bien passé globalement. C'est beaucoup de pannes mécaniques, donc c'est pas trop grave. Voilà, PH Brunet du Vanuatu qui gagne le rallye. Deuxième, Sébastien Guépin. Et troisième, Gabriel Hernu. Un très bon rallye dans l'ensemble. Le public, je pense, a été content. Les pilotes étaient contents. Donc, non, vraiment une belle réussite quand même pour ce premier rallye du championnat.
Voilà, la prochaine date pour les rallyes, ce sera dans un mois pour un week-end du 23 et 24 mai à Bouraille, la deuxième manche du championnat de Calédonie des rallyes.
Et les trailers avaient rendez-vous ce dimanche sur le Blue Bat Trail 2026.
Ouais, dans des conditions, évidemment, encore une fois, épiques, les amateurs de course en pleine nature n'ont pas boudé leur plaisir. De la boue, des sensations fortes au départ du Yala Range sur le parcours phare de 15 km. C'est Tom Lacombe qui s'est imposé. Il nous a fait part de sa réaction.
Une super course des conditions assez difficiles, très glissant. On est parti très vite avec Gabi sur les 5 premiers kilomètres. On se détache tous les deux. Et Julien, on était trois avant d'attaquer la première montée. Et là, dans la première montée, je me suis détaché. Et franchement, un parcours top, très glissant, mais très joli, très technique. Et après, jusqu'au bout, il a fallu relancer. Les passages de rivière à la fin font un peu mal. Mais très content de la course. Franchement, c'était une super course, super organisation. Et merci aux bénévoles.
Tom Lacombe qui l'a donc emporté devant Gabriel Espada et Liam Gilquin. Chez les féminines, c'est Clara Gorgoclion qui l'a emporté sur le parcours phare de 15 km devant Emmanuel Favard et Emily Graham. Notez que plus de 850 participants étaient au rendez-vous de cette deuxième édition du Punch Power Trail Pro Tour de Pro Events en partenariat avec RRB. Une belle réussite pour ce rendez-vous des amateurs du genre malgré ces conditions dégradées des derniers jours.
Les sports aquatiques et un grand moment pour la natation ce samedi. Les nageurs du territoire avaient rendez-vous pour le 30e meeting Total Energy du CNC.
Plus de 400 nageurs présents pour cette grande fête de la discipline dans les bassins de Nouméa, au cercle des nageurs calédoniens, avant tout dans la convivialité et l'esprit sportif.
Moi, c'était bien, j'ai bien aimé la journée. Bon, j'aurais aimé aller en demi-finale, parce que je sais que je pourrais pas aller en finale, mais ouais. C'était bien.
L'important, c'est de participer.
Oui, voilà. Ben bien, je me suis éclaté, je me suis amusé et j'ai nagé.
Au début, j'étais stressée et j'avais un peu peur. Et maintenant, là, je suis fière de moi.
Mère et fille engagées dans ce meeting du CNC.
Écoutez, c'est toujours une compétition super agréable.
Malheureusement, cette année, le temps n'était pas avec nous, mais bon, la bonne humeur est toujours là. Après, voilà, avec la pluie, c'est vrai qu'il a fallu gérer toute la journée quand on est qualifié pour les demi-finales. Pour les finales, il faut rester au sec, quoi.
Les finales.
Tu as eu l'occasion de nager avec Maxime Grousset ?
Oui.
Alors, ça t'a fait quoi, ça ?
Un peu le stress. Ouais.
Maintenant, ça va ?
Ouais.
Et en effet, Maxime Grousset, l'invité d'honneur, ancien du club, désormais champion du monde et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Il s'est imposé sans surprise sur la distance du 50 mètres nage libre. Il a particulièrement apprécié d'être présent à cette occasion.
Bah, c'était voilà, un maximum d'ambiance, un maximum de fun. Malgré ce temps qui était vraiment compliqué toute la journée, il y avait en tout cas une bonne ambiance au CNC.
La fierté du public, ça compte, ça va jouer pour même la suite, hein, on imagine.
Bah, ça va jouer pour la suite. Moi, j'espère avoir pris un maximum d'énergie, j'en suis sûr. Et pour les générations futures, j'espère avoir donné exemple et avoir donné envie aux autres, aux jeunes de me suivre.
Et le club du Cercle des nageurs calédoniens fêtait à cette occasion ses 60 ans d'existence.
Mickaël, encore quelques résultats sportifs.
Hors du territoire, tout d'abord, une mauvaise nouvelle pour le kickboxeur Cédric Do. Il s'est incliné face au champion néerlandais Mohamed Boutassa lors d'un événement Glory sur les terres de son adversaire à Rotterdam. Cédric Do, qui restait sur 7 années d'invincibilité, il demeure dans le top 10 national du kickboxing. Sur le territoire du tennis de table, avec la coupe d'ouverture du comité provincial sud, Laurent Sens s'est imposé dans la catégorie Open Mixed en l'absence de Jérémy Day et Olivier Clouet qui prennent part aux mondiaux par équipe en Angleterre. Et puis du football, la 6e journée de Super League, Magenta qui a perdu sur le terrain de Yengen 3-1. Lossi s'est imposé face à Gaïcha 1-0. Kouni et Nejeu se sont quittés sur un nul de but partout. Aujourd'hui encore deux rencontres au programme, Saint-Louis Horizon Pato et Tiga Mondor.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mondor, c'est le 100.4.
Le sport sur la scène nationale du football avec le PSG qui a écrasé Angers pour le compte de la 31e journée de Ligue 1.
Oui, les Parisiens l'ont emporté sur le score de 3-0. Paris qui prend au passage 6 points d'avance sur Lens, son premier poursuivant. Lens qui a été tenu, on le rappelle, en échec hier face à Brest, 3-0. Le PSG prend donc le large à 3 journées de la fin du championnat de France et surtout prend de la confiance avant le choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Les autres résultats du jour, la victoire de Lyon sur Auxerre, 3-2. Les Lyonnais qui restent 3e du championnat de France. Enfin, Toulouse et Monaco se sont quittés sur un score de parité, 2-2.
On passe du ballon rond au ballon ovale.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
On dispute ce week-end la 22e journée de Top 14.
Et le Stade français qui s'est imposé à domicile face à Pau, le deuxième du championnat de France. Victoire du Stade français sur le score de 34-32 à la Sirène. Les Parisiens qui prennent provisoirement la 3e place du championnat de France. À domicile, encore une victoire difficile pour le Loup lyonnais. Lyon qui l'emporte dans la douleur face à Castres, 36-21. Victoire bonifiée du côté du RC Toulon qui remonte à la 8e place après avoir dominé à Bayonne 52-26. Montauban se dirige plus que jamais vers la Pro D2 après avoir été battu une nouvelle fois par le Racing 92-59-10. Montauban qui reste lanterne rouge du championnat de France. Défaite de l'avant-dernier également, Perpignan sur une pénalité à la fin du match contre La Rochelle 31-29. Perpignan qui risque fort de jouer les barrages pour le maintien dans l'élite. Enfin, l'Union Bordeaux-Bègles s'est inclinée face à Montpellier sur un score très serré de 23-21. Les Girondins, toujours en lice, on le rappelle, dans le dernier carré de la Champions Cup, sont 5e du classement du top 14. Les Montpellierains sont 3e. Allez, demain, il y aura encore une affiche à suivre. À partir de 6h, le Stade Toulousain, leader, accueillera l'AS Clermont.
On parle encore rugby avec le tournoi des 6 nations féminins. Les Bleus jouaient leur 3e match de la compétition.
Déjà victorieuses de l'Italie puis du Pays de Galles, les joueuses du 15 de France ont remporté le premier gros test dans ce 6 nations 2026 en s'offrant les redoutables Irlandaises avec le bonus offensif à la clé, 26-7 en faveur des Françaises. Bousculées en première période, mais solidaires en défense, les Bleus de Manae Feleo ont fait la différence dans le deuxième acte pour continuer leur sans faute et rester donc au contact des Anglaises dans la compétition. Les Anglaises qui ont pour leur part battu les Galloises, 62-24. Les deux nations sont donc toujours à égalité de points en tête du 6 nations.
On termine avec les sports mécaniques et le Grand Prix d'Espagne de MotoGP.
Et sous la pluie et malgré une chute, Marc Marquez a déjà remporté la Sprint Race côté français. français Fabio Quartararo s'est classé 7e de cette course sprint, Johann Zarco 8e. Johann Zarco qui avait pourtant livré un bras de fer intéressant avec Marc Marquez lors des qualifications. Le pilote Honda a pris la 2e place derrière le poleman espagnol. Fabio Quartararo, lui, ne s'élancera que de la 17e place sur la grille de départ ce soir. Un Grand Prix d'Espagne qui sera à suivre à partir de 23h, heure de Nouméa.
Merci Mickaël Juneski. Il est 12h30, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et le prochain point d'information, ce sera à 13h, toujours en ma compagnie.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.